Alors que je fasse très attention à ce que je vais dire, puisque je suis contrôlé aujourd'hui. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, nous avons certainement eu vécu cela ou constaté cela, mais il est des moments de grâce, où dans notre vie chrétienne, nous percevons des temps de grande joie par l'exaltation suscitée, parfois par un chant, par un moment dit de louange avec nos frères et nos sœurs réunis avec nous. Et bien que ces moments ne soient pas une suite continue, aujourd'hui ils ont été bien interrompus, bon, on ne pouvait pas savoir exactement quand cela allait tomber, et bien que ces moments effectivement ne soient pas une suite continue qui jalonne toute notre existence dans notre humble quotidien, nous aimons à les retrouver, à en revivre de nouveau, car ils nous portent, ils sont source pour nous d'encouragement, ces temps où, quelque part, nous trouvons cette grande joie à être avec le Seigneur, à le louer par exemple. Plus encore, quand s'achèvent ces moments exaltants, nous le quittons en ayant aussi une assurance particulière, celle d'avoir fait plaisir à Dieu. Oui, nous en repartons avec la joie et la certitude d'avoir honoré Dieu et de lui avoir offert un véritable sacrifice de louange, pour reprendre des paroles de Paul. Alors, je vous pose la question, cela ne nécessite pas réponse, mais quand même, avez-vous vous-même déjà vécu de tels moments ? Avec aussi cette même conclusion similaire d'avoir eu la certitude d'avoir honoré Dieu et de lui avoir fait un véritable sacrifice de louange. Vous pouvez juste acquiescer si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Hein. Je crois voir des sourires qui semblent déjà en dire un petit peu. Il est certain et vrai que Dieu se réjouit de nous voir le louer et lui rendre grâce quand nous venons l'adorer d'un cœur sincère et reconnaissant. Mais notre humilité peut parfois aussi nous faire défaut. Et nous pouvons alors en oublier de nous laisser interpeller par notre divin Père et de discerner ce que Dieu attend de nous au quotidien. J'aimerais, après l'avoir introduit ainsi, vous inviter à écouter les paroles du prophète Ésaïe, de prendre, pour ceux qui ont une Bible ou une application dédiée, votre Bible, alors, en Ésaïe chapitre 58, et nous allons lire les 12 premiers versets. Ésaïe chapitre 58, les 12 premiers versets. Voilà, une dernière fois, Ésaïe chapitre 58. Du verset 1 à 12. Et écoutons, je vais le lire dans la traduction au Semeur. Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du cor. À mon peuple dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Ils me recherchent chaque jour. Ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies. Comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi de justes jugements et veulent être près de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelle et en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tout ce que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. c'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu. Ne pas te détourner de ton prochain. Alors comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras l'Éternel, répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Si du milieu de toi tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. L'Éternel te conduira constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Et nous nous arrêtons là. Je veux juste prier un instant pour nous en remettre suite à l'écoute de ces paroles. Seigneur, oui, fasse que ces paroles de ton prophète, autrefois proclamées et depuis encore aujourd'hui entendues par tes enfants, puissent résonner en nous, puissent résonner au plus profond de nous, par l'interpellation que ton esprit veut susciter. Seigneur, qu'elle puisse nous éclairer encore sur ta volonté et sur tes projets dans notre vie et pour notre communauté. Amen. L'écoute des paroles du prophète, il faut l'avouer, sont assez percutantes, tant elles interrogent la cohérence de notre piété au regard de l'attente de Dieu envers nous. Ésaïe se fait incisif et ne mâche vraiment pas ses mots avec nous, comme il l'a eu d'ailleurs fait autrefois avec ses contemporains. Alors certes, me direz-vous, qui sommes-nous aujourd'hui pour placer quiconque sous le joug d'un esclavage, comme son voisin ou quiconque d'autre? Il faut l'avouer, au sein de notre société, peu aujourd'hui parmi nous, si ce n'est d'ailleurs personne, ne jouit de privilèges suffisants au point de faire valoir d'une simple parole son autorité princière sur quiconque croiserait son regard. Nous n'en sommes plus trop là. Mais dit autrement, peu parmi nous peuvent a priori se reconnaître dans ces personnes interpellées par le prophète, car nous n'avons que très rarement l'occasion de faire peser un joug écrasant sur autrui. Pour autant, le message du prophète demeure et reste pertinent pour qui l'écoute, car il est surtout question de la cohérence de notre piété. Tout d'abord, notez que le prophète, dans les premiers versets, se saisit de la soif de ses destinataires, une soif de rechercher Dieu au quotidien. Et cette soif, quand il en parle, ne semble être pas totalement une parole en l'air, dans la bouche de ceux qui se voient ici interpellés, premièrement. Il y a, semble-t-il, chez eux une forme de sincérité dans leur volonté d'être près de Dieu, comme le prophète le fait entendre dans le verset 2. Aussi, si on s'accorde sur la sincérité des premiers destinataires, de ceux qui ont vécu au temps d'Ésaïe, nous pouvons alors constater qu'étrangement, ils nous ressemblent par leur soif. Une soif que nous pourrions résumer à deux choses, pour le dire très, très synthétiquement, leur désir de connaître les voies de l'Éternel et leur désir de s'approcher de Dieu. Voilà quelle est leur soif. Et ce sont ces personnes-là qu'Ésaïe va interpeller. Très certainement, nous nous démarquons de ces premiers destinataires car notre piété, pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, ne s'appuie que peu, certainement, sur la pratique du jeûne. Au quotidien, on va dire, au quotidien. Nous ne jeûnons pas au quotidien, ni eux d'ailleurs, mais ce n'est peut-être pas l'accent majoritaire dans notre piété. Cela dépend des époques, cela dépend aussi de nos cultures. Et pour essayer de regarder à nous, plus encore, dans notre piété, il y a sûrement des domaines privilégiés, des accents majeurs qui la structurent. Comme, pour peut-être beaucoup d'entre vous, la lecture de la parole dans votre quotidien. La prière. Ou encore le chant, que l'on appelle d'ailleurs louange, par erreur, parce que la louange, c'est toute la piété, et non pas seulement le chant. Ce dernier, le chant, constitue, il faut l'avouer, une partie importante de notre piété, de notre louange à Dieu. Il en est peut-être même la partie majeure aujourd'hui. Et quand on regarde au monde évangélique, on s'aperçoit que la grande majorité de la sphère évangélique en a même fait le cœur de sa vie cultuelle. Aussi, aujourd'hui, ne peut-on pas réentendre le prophète Ésaïe dans ce qui fait l'actualité de notre piété, en osant même le redire ainsi. Alors j'ai juste changé un mot au verset 6, je ne vais pas aller plus loin dans la lecture. Mais là où il parlait de jeûne, nous pourrions nous mettre. La louange qui me plaît est celle qui consiste à détacher les liens de la méchanceté. Et nous pourrions continuer la lecture. N'avons-nous pas la tentation de nous satisfaire aussi de notre pratique, de notre louange à Dieu ? Car par elle, nous pensons avoir l'assurance de faire pleinement plaisir à Dieu au vu de la joie qui se vit dimanche après dimanche, dans nos cultes par exemple. Il est possible que nous puissions tomber aussi, nous, dans les mêmes travers que ceux que Ésaïe a interpellés la première fois. C'est-à-dire de confondre ce que nous aimons faire pour Dieu, et d'ailleurs les émotions qui en découlent, avec ce que Dieu attend fondamentalement de nous. Car qu'attend-il de nous ? Le Seigneur lui-même l'a si bien rappelé en ces termes à la question qu'était venu lui poser l'un des pharisiens de son temps, avec l'intention de le piéger. Je vous lis juste les paroles pour ceux qui sont vraiment rapides. Allez prendre alors Matthieu 22, les versets 36 à 40, mais surtout écoutez. Le pharisien se présenta à lui et dit les choses ainsi. « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Et Jésus lui répondit. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Écoutez la suite. Il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. J'arrête là ce passage de l'évangile de Matthieu qui nous rappelle ce qui est fondamental. Cette double obéissance n'est pas toujours chose aussi aisée. Car nous savons nous montrer, pour beaucoup, si ce n'est tous, si incohérents parfois. Bien que cela puisse tomber sous le sens, ce que Dieu attend de nous est bien d'aimer notre prochain, comme nous aimons Dieu. C'est-à-dire de ne pas en oublier de rechercher aussi à vivre une relation responsable avec lui, avec ce prochain. Que ce soit d'ailleurs directement par l'amour que je dois lui témoigner, ou même, et je ne vais pas développer cet aspect-là, indirectement, n'oublions pas que mes actes et les conséquences de mes actes sur la création ont aussi un impact considérable sur l'existence de mon prochain, qui très souvent d'ailleurs peut être plus précaire que la mienne. Mais je ne développe pas cet aspect, qui touche plus à l'écologie. Le Seigneur continue de nous y inviter aujourd'hui, tout comme il le fit auprès de ce pharisien. Là est le chemin qui balise une vie marquée par sa justice. Il se situe entre deux pôles que forment l'amour sincère pour Dieu d'un côté et l'amour désintéressé pour le prochain de l'autre. aussi, ne nous contentons pas de nous satisfaire par exemple, la qualité de notre louange ou de notre vie de prière, ou que sais-je encore. Ne soyons pas rassasiés par notre piété individuelle ou même collective vécue dans l'Église, car il y aurait là un potentiel danger à nous endormir et de ne plus entendre l'exhortation de notre Seigneur et Maître à vivre sa justice au quotidien. À ce propos, alors c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu à cœur de prêcher là-dessus, mais j'aimerais vous partager une petite anecdote liée à une personne qui m'a été chère et qui m'a formé. Alors aujourd'hui, j'ai moins l'occasion de la voir, maintenant qu'elle est à la retraite. Un jour, alors que j'étais encore un jeune stagiaire, auprès de celui qui était mon maître de stage, un pasteur qui était d'ailleurs à œuvrer non loin d'ici, à Paris même, un certain Richard Jolin, pour ceux qui l'ont connu ou le connaissent. Ce dernier se permit, dans son église, une remarque comme lui seul d'ailleurs savait les formuler. Il avait un petit chic pour ça. Il osa la question devant sa communauté, et puis avant cela devant son conseil, en disant, au mot près, hein, j'ai réussi à retrouver la citation, « Pourquoi mon église est-elle si bien équipée en sono ?» Alors, je regarde chez nous, c'est pas mal aussi. « Et y consacre tant d'énergie, de temps et d'argent, et n'a pas une réelle présence sociale, ni un groupe se consacrant à sensibiliser la communauté aux enjeux de justice sociale. » Alors, aujourd'hui, je me mesure, je n'ai pas l'ambition de reprendre au mot près l'interrogation de ce cher Richard pour nous. Je vous invite juste à écouter ce que le prophète Ésaïe nous dit avant tout. Mais l'exemple posé par le questionnement de ce cher collègue, qui m'a beaucoup aidé et accompagné dans le temps de ma formation, ne doit-il pas aussi résonner dans nos cœurs ? Posons-nous plus encore la question suivante avant de la remettre en prière ensemble tout à l'heure. À quelle affirmation ou vision de l'Évangile nous voulons nous attacher ? Je la reprends, hein. À quelle affirmation de l'Évangile ou vision de l'Évangile nous voulons nous attacher ? Pour moi, la question est fondamentale. Je vous donne une réponse, elle sera très brève. Je ne vais pas trop chercher à la développer, on prendrait trop de temps. Mais nous aurons l'occasion, je pense, prochainement d'avoir des temps de partage en vie d'église, justement. Ils se programment, ils ont été annoncés. Cette vision de l'Évangile, cette affirmation de l'Évangile à laquelle nous devons nous attacher, je vais la qualifier en un mot. Cette vision doit être intégrale. Elle se doit de rechercher au quotidien l'obéissance à ces deux commandements, qui ne peuvent être séparés car la qualité de notre témoignage en dépend. Nous ne pouvons dire « nous aimons Dieu et nous le faisons avec brio » alors que nous en oublions d'aimer notre prochain. Et là-dessus, Jésus a été assez cinglant pour ceux qui ont osé le penser. Mais plus encore, j'aimerais que vous écoutiez, vous rappeliez aussi ce que Ésaïe a attaché à tous ceux qui vont s'efforcer, avec l'aide de Dieu, de suivre ce chemin, de répondre à ce double commandement. Car il y a beaucoup de promesses divines qui y sont attachées, et nous les avons entendues tout à l'heure. Notamment à partir du verset 8, où il est dit « Alors comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite, oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. » N'est-ce pas là une promesse merveilleuse ? Et entendez la suivante, je m'arrêtais là, on pourrait encore lire tous les autres versets. « Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. » Aussi, mes frères et sœurs, nous tous, réjouissons-nous du chemin qui nous attend encore. Un chemin qui nous invite à nous appuyer sur nos deux jambes. Pourquoi je dis ça ? C'est juste une métaphore que je vais essayer d'expliquer et développer un peu. Ces deux jambes, pour moi, ce sont l'obéissance à ces deux commandements d'amour. Soyons attentifs, sur ce chemin de vie, sur ce chemin de la vie de disciple auquel notre Dieu nous invite, à ne pas avancer sur l'une ou l'autre de ces deux jambes, qui sont pour moi ces deux commandements d'amour. On peut d'ailleurs être tenté d'avancer en sautant tantôt sur l'une, être à fond dans la louange, et tantôt, pour un autre moment, de nous appuyer seulement sur l'autre et d'avancer à cloche-pied, et de dire, cette fois-ci, on va se donner à fond et aimer notre prochain. Essayez d'avancer comme ça dans la vie. Demain pour aller au boulot, à cloche-pied sur une, et puis de temps en temps, vous alternez, vous passez sur l'autre. D'une, vous serez profondément ridicule, mais ça, c'est pas grave. C'est surtout que vous allez avoir beaucoup de mal et vous risquez de chuter, car vous serez constamment en déséquilibre. L'enjeu, tout en continuant de filer un peu cette métaphore que je vous offre là, est de trouver le secours en Dieu. Par l'aide et le soutien de son Esprit Saint pour petit à petit arriver à muscler notre cohérence dans notre foi. C'est-à-dire de ne pas être porté seulement par la jambe de mon amour pour Dieu, par exemple. Et sans cesse, je le loue. Mais à côté, je hais mon voisin, je hais mon frère pour je ne sais quelle raison. Bon, on n'ira pas jusqu'à dire cela, mais parfois dans notre cœur, c'est quand même un peu là. De ne pas être porté non seulement aussi par cette autre jambe, celle de mon amour pour le prochain, qui me voit mettre toute mon énergie, tout mon argent peut-être, etc., dans des associations, à manière de m'investir, et n'en oublier aussi que je me dois de l'écouter pour apprendre à mieux l'aimer, jour après jour. Oui, nous avons tous besoin, d'une certaine manière, de nous entraîner sur nos deux jambes. De les voir se muscler l'une et l'autre, pas pour qu'il y en ait une qui soit plus forte et l'autre plus fragile. Car là aussi, nous marcherions d'une manière déséquilibrée dans notre vie de foi. Car c'est sur ce sentier-là que nous devons avancer. Un sentier qui nécessite que nous nous appuyions sur l'un et l'autre de ces deux commandements. Qui, à eux seuls, résument tout. Dans la citation de l'évangile de Matthieu que nous avons entendu tout à l'heure, Jésus parlait de la loi et des prophètes. C'est une expression qui, en ce temps-là, signifiait la parole, les Écritures, qui n'étaient alors que ce que nous appelons nous aussi l'Ancien Testament, mais qui pour nous valent pour toutes les Écritures, dans toute la révélation de Dieu. Nous avons besoin d'un coach pour cela. Je suis très très mauvais en sport, je n'aime pas ça. Mais ce challenge-là, je ne peux que le relever. D'une, parce que le coach qui m'est proposé, d'une, m'est offert gracieusement, j'ai même pas besoin de m'inscrire, et il m'attend à tout moment, il est même disponible à tout moment, parce que c'est Dieu lui-même. Et lui, il veut me fortifier, il veut m'aider à avancer, et me dire, Emmanuel, apprends aussi à muscler ta foi, à t'appuyer sur ces deux commandements et à ne pas osciller de l'un à l'autre, un peu en fonction de tes envies, etc. Je pense que nous avons tous quelque part encore besoin d'écouter un peu ce coach pour nous, car nous avons besoin de grandir sur ces deux jambes qu'il veut nous offrir. À propos de la sagesse divine, il me semble que en plus du don de son Esprit Saint qui nous aide justement à avancer sur ce chemin, il nous a fait aussi d'un autre don, mais qui nous relie toujours à l'Esprit Saint. Parce que ce don de l'Esprit Saint, il n'y a pas que moi qui l'ai reçu, nous l'avons tous reçu. Il nous l'a donné à nous tous, ses enfants, et il nous a fait par cela un autre don précieux, celui du discernement communautaire. Un discernement qui est lui aussi sous la dépendance de son esprit, bien évidemment. Et ce don, d'ailleurs, se trouve quelque part résumé dans un proverbe. Le proverbe, alors, je vais vous donner la référence, peut-être elle va avoir le temps de s'afficher. Proverbe 27 et le verset 17, qui va dire ceci. Je vais attendre qu'il s'affiche. Proverbe 27, 17, pour ceux qui ont une Bible, et vous irez aussi le prendre dans leur propre Bible, si on peut la voir. Sinon, je vais le lire et puis il arrivera après. Voilà ce que dit cette parole. Le fer aiguise le fer. Ah, ouais, il a inversé, mais c'est pas grave. Le fer s'aiguise par le fer et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Une parole un petit peu connue, qu'on peut oublier, mais elle est là dans ce qu'elle veut dire. Comment je la comprends ? Je vous le dis. Mais avant même de l'expliquer, j'aimerais dire d'abord remercions notre Créateur de nous avoir rassemblés en tant que peuple, au sein de notre communauté locale, de toute communauté locale d'ailleurs. Car par la présence de nos frères et de nos sœurs, dont les dons, dont les élans et dont les sensibilités de cœur diffèrent de moi. Mais par tout cela et par le fait qu'ils nous rassemblent et nous invitent à vivre notre foi avec eux, Dieu aussi nous avertit, nous garde et nous encourage avec la sagesse que nous donne son esprit par cette diversité vivifiante. D'ailleurs, bien heureusement, c'est par un peuple que Dieu veut nous sauver. Et c'est au sein de ce peuple qu'il nous invite à vivre ce salut. Oui, Dieu, par ce peuple-là, par ma communauté, par mon Église, m'avertit, il me garde, il m'encourage avec la sagesse que nous donne pour chacun d'entre nous son esprit, par la diversité que nous sommes, par celle qui compose toute communauté locale. Ou pour reprendre plus ou moins les paroles de ce proverbe, Dieu veut nous affiner. Il veut nous aiguiser. Alors, je ne sais pas comment vous aimez aiguiser vos couteaux, vous, pour ceux qui aiment bien faire cela d'ailleurs. Peut-être que vous avez l'habitude que quand ils sont trop usés, vous les jetez. Il serait temps de changer autre chose. Apparemment, il faut penser durable maintenant, mais avez-vous un fusil pour certains d'entre vous? Pas le truc où on charge et on tire, hein, bon, pour les chasseurs si vous voulez, mais je parle de cette espèce de grand tube en métal, là, rayé, sur lequel, alors moi j'ai pas le coup de main, et puis j'aime pas les fusils, je préfère les bonnes pierres, là, où on ponce, alors c'est plus long, etc., mais le couteau, quand il va passer dessus, vous allez l'user. Ça va pas être très agréable à l'oreille, en plus, enfin, pour ceux qui l'ont entendu, hein. Ma belle-maman aime bien faire ça. Moi, je... Ah. Mais que ressort-il pour ce couteau? Il se retrouve affiné, aiguisé, propre à être bien utilisé, tranchant comme il le faut, et enfin un bon outil. C'est cela ce que signifie. Et c'est ce que nous sommes les uns pour les autres, même si cela parfois est un tout petit peu difficile. Oui, Dieu veut faire de nous des outils plus affûtés. Permettez-moi encore l'image. Pour le dire autrement, il veut mieux nous préparer en vue de son royaume. Aussi, rendons grâce au Seigneur pour cette diversité fraternelle qui, dans le discernement communautaire que nous offre la troisième personne de Dieu, est pour chacun d'entre nous une source d'interpellation pour avancer et cheminer davantage selon la volonté divine et d'en oublier nos seules aspirations et sensibilités propres. Car nous les en avons tous. Et très souvent, nous pouvons penser qu'elles sont justes et bonnes et seulement elles. Petite anecdote, non, c'est même plus une anecdote là, mais j'aimerais en profiter. Alors, ils ne sont pas forcément là d'ailleurs, et ils sont très humbles là-dessus, mais j'en profite pour remercier aussi, pour d'autres choses, certains frères et sœurs de notre communauté qui, par exemple, l'an passé, nous ont encouragés à les accompagner pour aller dans la rue, dans les rues même. Tantôt pour offrir des habits chauds, et je sais qu'ils nous avaient invités aussi d'ailleurs à venir faire don de choses qui ne nous servaient plus et qui pouvaient encore être utilisées, données, offertes pour ces habits chauds, mais aussi parfois pour apporter un sandwich et plus encore pour une parole réconfortante, avec pourquoi pas la possibilité d'ailleurs, si la personne l'acceptait, de lui laisser une Bible ou un testament ou autre. Oui. Parce que Dieu nous avait fait don aussi de tels frères et sœurs au sein de notre communauté par l'humilité de leur appel qu'il nous avait fait entendre l'an passé à servir Dieu aussi encore, autrement. Ils sont là aussi pour que nous nous laissions aiguiser, affiner et de parvenir à force de tout petits pas à devenir plus semblables aux disciples que l'Esprit veut façonner en nous. Alors, je ne leur ai rien demandé, je n'ai pas eu le temps de les contacter, j'espérais en voir un ou deux ce matin, mais bon, peu importe. Si prochainement, ça n'est juste qu'un exemple, il y a plein d'autres manières, hein, mais je reste sur celui-là. Si prochainement, vous entendez parmi nous, des frères ou des sœurs, certainement les mêmes, nous appeler à nouveau à participer à une maraude ici ou sur Paris, en cette période de grand froid, qui pointe d'ailleurs déjà un peu le bout de son nez, hein, on l'a ressenti cette semaine. Ne résistez pas. Joignez-vous, pourquoi pas, à eux, ne serait-ce que pour une première soirée. avec, entre guillemets, le grand danger, c'est que vous y preniez goût. Parce que là aussi, vous pourriez trouver plaisir à servir Dieu. Aussi que le Seigneur, dans la sagesse et le discernement que nous donne son esprit, nous montre à chacun et surtout à nous tous en tant que communauté et nous encourage à entendre son exhortation à vivre à l'exemple de Jésus. Lui qui nous a montré ce que signifie vivre l'Évangile, car seul lui était et est la bonne nouvelle. Qu'on puisse, pour un moment, faire silence, prendre le temps peut-être de digérer aussi cette parole fraternelle, et j'aimerais pour ceux qui le souhaitent, dans la liberté que nous donne l'Esprit, de prier. Et faisons silence et prenez le temps de pouvoir remettre aussi en prière ce que Dieu peut-être a mis dans votre cœur, et surtout de le louer aussi, ici. Et je conclurai moi-même par ma prière. Seigneur, nous avons entendu ta parole nous redire que l'amour qui est ton amour est l'amour du prochain. Nous avons entendu que prétendre t'aimer, toi que nous ne voyons pas, ne peut être que mensonge si nous n'aimons pas aussi notre prochain, que toi tu aimes déjà. Aussi, Seigneur, selon ta promesse, accomplis en nous, par ton esprit, le vouloir et le faire. Et maintenant, parce que nous avons soif et désirons t'obéir, accepte, Seigneur, que nous puissions te louer et chanter la joie qui est la nôtre d'être tes enfants. Amen.
Alors, je te laisse la place. Merci.